Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils étaient en train d'offrir au temple. C'est saint Luc qui nous raconte cela, les autres évangiles n'en parlent pas. C'est intéressant parce que, en fait, c'est l'actualité de l'époque. Ce sont les gros titres du journal, s'il y avait un journal. Et d'ailleurs, Jésus ajoute un autre événement qui sans doute vient de se passer. C'est l'écroulement de la tour de Siloé qui a fait 18 victimes. Notez la précision des informations, ce qui nous montre, contrairement à ce que certains pensent, que les évangiles n'ont pas été écrits deux ou trois générations plus tard. Non, non, on est tout près de l'événement et là, il laisse des traces. En tout cas, dans les deux cas, la question que pose Jésus, c'est est-ce que ces pauvres malheureux, ces victimes, sont plus pécheurs que les autres? Et la réponse, évidemment, c'est pas du tout. Notez bien l'insistance. Sortons de cette vision des choses où il faut toujours un coupable, un responsable. Même dans la Bible, on voit parfois qu'il y a cette tentation de si tu es malheureux, c'est de ta faute, si tu es heureux, c'est que tu es juste. Ben, c'est pas si simple que ça. En tout cas, on entend ça quand les gens disent « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive une chose pareille ?» Comme si Dieu était là en train de nous surveiller et prêt à nous taper dessus. C'est pas du tout le Dieu de l'Évangile. Dans les deux cas, Jésus ajoute quelque chose qui là est quand même assez troublant. C'est « si vous ne vous convertissez pas, vous allez tous périr d'une manière semblable » et dans le deuxième épisode, d'une manière identique. Notez bien qu'il dit pas « vous allez mourir ». Mourir, nous mourrons tous un jour. Il y a une mort naturelle qui est la mort corporelle. Il s'agit de périr, c'est la mort intérieure, c'est la mort spirituelle. Et du coup, la petite parabole du figuier qui ne porte pas de fruits malgré 3 ans se occuper de lui est tout à fait à sa place. Cette parabole est d'ailleurs propre aussi à saint Luc. Et en arrière-plan, on entend que cette troisième année correspond à aux 3 ans de la vie publique du Seigneur, qui a, vous savez qu'elle a été très brève, d'une première Pâque à une troisième Pâque. La Pâque de la purification du Temple et la Pâque de la Croix. Entre les deux, la Pâque de la multiplication des pains. Donc Jésus est dans sa troisième année, qui est sa dernière année. À l'horizon, déjà, il y a la Croix et la Résurrection. Et il s'étonne du peu de fruits qu'apporte sa prédication, de combien les cœurs sont fermés. D'ailleurs, ce chapitre de Saint-Luc se termine par les larmes de Jésus sur Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont envoyés. Il se heurte à cette résistance, à cette fermeture des cœurs, et qui ira jusqu'à sa crucifixion. Alors en même temps, attention, que ce soit pas pour nous une sorte d'alibi en disant c'est les méchants qui ont crucifié Jésus, nous ne sommes pas en dehors de l'interrogation. La lettre aux Hébreux, chapitre 6, nous fait cet avertissement. Quand on a reçu la lumière, quand on a eu part à l'Esprit Saint, quand on a été touché par la parole de Dieu, et qu'on retombe, on crucifie de nouveau le Fils de Dieu, et on le tourne en dérision. C'est pourquoi l'apôtre saint Paul a raison de nous dire, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Ne pas tomber. Nous sommes impressionnés, épouvanté, scandalisé, effondré, en voyant de révélation en révélation toute la façon dont tant de prêtres et même d'évêques et même de hauts personnages du gouvernement de l'Église ont pu tomber. Et Benoît XVI nous avait mis en garde, les ennemis les plus dangereux de l'Église ne sont pas ceux du dehors, ce sont ceux de l'intérieur. Comment comprendre de tels égarements? En même temps, ne tombons pas dans l'autosatisfaction du pharisien qui loue le Seigneur parce qu'il n'est pas comme tous ces pourris qui l'entourent ou comme le publicain qui est là-bas. Et en même temps, ne soyons pas non plus dans le simplisme des commentateurs qui font le procès de l'Église mais qui oublient de faire le procès du relativisme doctrinal et moral qui a conduit à ces aberrations, à ces égarements, en particulier à partir des années 60 jusqu'aux années 80. Ces drames, ces scandales ont été multipliés par 10. Et c'est seulement à partir des années 80, quand la congrégation de la doctrine de la foi a mis un peu de rigueur dans toutes ces affaires, sous la direction du cardinal Ratzinger, c'est à ce moment-là que la décrue a commencé. Mais cela dit, très chers frères et sœurs dans le Christ, comprenons que la conversion de l'Église commence par notre conversion. La conversion la plus urgente, c'est la mienne. Que j'ose reconnaître et nommer ce qui déplaît au Christ dans ma vie. Il est si facile de s'excuser. Il est si salutaire de s'accuser. Et c'est pourquoi le sacrement de réconciliation nous est offert. Non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver et nous convertir. Cela me rappelle la réflexion de Mère Teresa de Calcutta, Sainte Teresa. Un journaliste l'aborde et lui dit « Mais ma mère, vous ne trouvez pas qu'il y a des choses à changer dans l'Église ?» Elle répond « Oui, vous et moi. » Purification de l'Église commence par ma propre pureté, par ma clarté, par ma vérité intérieure. La sanctification de l'Église, qui est nécessaire pour la sanctification du monde entier, commence par ma propre sainteté, ou plutôt par la sainteté de la présence de Dieu en moi, car c'est l'expérience de Moïse qui doit défaire ses sandales, parce que cette terre que tu foules est sainte, c'est la terre, parce que Dieu est présent là, et il a vu la misère de son peuple, et il veut agir pour le sauver. Nous sommes donc dans l'espérance, malgré tout. Espérance pour nous, espérance pour tous. C'est le dernier mot de la parabole. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Oh, ce n'est pas garanti, ce n'est pas sûr, ce n'est pas évident, mais il y a cette petite lueur d'espoir. Grande est la miséricorde de Dieu et la puissance de son amour qui peut tout recréer et me recréer moi-même. Oui, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Amen. Cela me rappelle la réflexion de Mère Teresa de Calcutta, Sainte Teresa. Un journaliste l'aborde et lui dit « Mais ma mère, vous ne trouvez pas qu'il y a des choses à changer dans l'Église ?» Elle répond « Oui, vous et moi ».